Laudetur Jesus Christus.
Presque une semaine d'hospitalisation pour le pape François au Gemelli en 16 heures de prière intense un peu partout dans le monde pour le rétablissement du souverain pontife. Nous entendrons les vœux de l'archevêque de Marseille. Le travail incessant des églises au Liban auprès des plus démunis, c'est ce qu'est venu voir le cardinal Cherny en visite depuis hier au pays du Cèdre. Nous entendrons une religieuse des Filles de la Charité. À la une de ce journal également, la détresse de deux Vénézuéliennes. Elles ont dépensé toutes leurs économies pour honorer une rencontre avec les autorités américaines, obtenir un visa. Rendez-vous annulé par l'administration Trump. Et puis enfin, après les insultes du président américain à l'égard de son homologue ukrainien, le froid se confirme entre les deux pays, alors que l'Ukraine s'apprête à entrer dans sa quatrième année de guerre.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Une semaine d'hospitalisation déjà pour le pape à l'hôpital Gemelli, état stationnaire, avec une légère amélioration, indiquait le dernier bulletin médical fourni par le Saint-Siège. Un nouveau point est attendu ce soir. Du patriarcat latin de Jérusalem aux conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Une grande famille spirituelle prise en ce moment pour le rétablissement du pape. L'archevêque de Marseille, actuellement à Rome, est en contact écrit avec François. Le cardinal Avni nous confie sa préoccupation presque familiale pour le Saint-Père, qu'il c'est très résistant.
Il y a tellement longtemps qu'il est malade, si je puis dire, et il y a tellement longtemps qu'il montre sa capacité, sa volonté. L'autre fois, il m'a dit, j'ai mal au genou, mais je ne gouverne pas avec le genou, ça va. Hein. Il m'avait dit aussi une autre fois, je vois tous les gens, ils sont avec moi là, ils sont fatigués, mais moi non, ils sont plus fatigués que moi. Hein. Donc, il nous a tellement habitués à ça que, bon, on voyait un peu fatigué, mais ce n'était pas une inquiétude pour nous. Je ne m'étais pas affolé avant. Là, je ne suis pas affolé non plus, mais je suis inquiet comme pour mon père, voilà, comme quand mon père était à l'hôpital. C'est quelqu'un qui prie beaucoup. Et ce qui vient dans la prière, ce qui a été mûri, ensuite, il l'applique. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés à convaincre, voilà, il l'applique. C'est un combattant, mais c'est pas un combattant au sens guerrier du terme. Quelqu'un qui est fidèle à sa relation avec le Seigneur et ce qu'il comprend de ce qu'il doit faire. Il y a une belle oraison au tout début de l'année liturgique qui dit « Seigneur, donne-nous la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir ». Pour moi, ça décrit tout à fait sa personnalité.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. Le cardinal Jean-Marc Aveline était tout à l'heure en salle de presse du Saint-Siège pour présenter l'initiative MED25 de ce navire-école pour la paix de trois mâts nommé le Bel Espoir qui s'apprête à sillonner la Méditerranée. Le départ est prévu dans 10 jours pour une traversée de 8 mois incluant 200 jeunes et une quinzaine d'escales. Plus d'informations à 8h30 demain matin. La Méditerranée fait bel et bien l'objet d'une attention particulière du Saint-Siège. Le cardinal Cherny, préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral, est actuellement au Liban pour visiter, encourager l'église locale. Dans le pays du Cèdre, le travail des religieux et religieuses reste essentiel dans l'aide aux plus démunis. Plusieurs écoles et dispensaires y sont ainsi, par exemple, gérées par les Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul. Sœur Laurie Sobeid revient sur l'aide qu'elles apportent aux familles pauvres, notamment pour se soigner.
Nous avons des dispensaires. Ces dispensaires travaillent beaucoup actuellement dans différentes régions parce que les gens n'arrivent plus à aller dans les hôpitaux. Je donne un exemple. Il y a des malades qui font le tour de 3 à 4 hôpitaux à Beyrouth et ils finissent par aller au Sacré-Cœur chez les Filles de la Charité parce que les autres hôpitaux ne les reçoivent pas, même pas à l'urgence parfois. Alors nous, on n'a pas le droit moralement et nous disons aux responsables, il faut les accueillir, faire déjà les premiers soins. Et il y a des malades que moralement et consciencieusement, on ne peut pas leur dire « allez vous soigner chez vous ». Donc il faut les interner. Et ces malades ont des soins coûteux et personne ne peut nous payer ces factures. Les parents ne peuvent pas, il n'y a pas d'organisme qui assure, peut-être ils assurent des petites aides, mais pas la couverture des factures.
Des propos recueillis par notre collègue italien Salvatore Cernuzio à Beyrouth. En Iran, deux ONG dénoncent une escalade effroyable des stèles du recours à la peine de mort. L'an dernier, au moins 975 personnes ont été exécutées, selon Iran Human Rights et Ensemble contre la peine de mort. C'est le chiffre le plus élevé. Depuis que leur recensement a commencé en 2008, il serait inférieur à la réalité. 90% des exécutions n'étant pas rendues publiques par les autorités iraniennes. Une journée de larmes, de deuil en Israël. Les cœurs de toute une nation sont dévastés, a constaté le président Herzog. Il a demandé pardon aujourd'hui à ses concitoyens de ne pas les avoir protégés le 7 octobre, de ne pas avoir ramené chez eux l'ensemble des otages en vie. Ce jeudi, une mise en scène macabre ce matin à Khan Younes, décriée d'ailleurs par l'ONU et le CICR, le Hamas, a remis à cette occasion 4 cercueils censés contenir les corps de 4 otages israéliens, ceux de 2 enfants en bas âge, de leur mère, d'un octogénaire. Leurs dépouilles sont ce soir examinées à Tel Aviv. Cela fait un mois, jour pour jour, aujourd'hui que Donald Trump a été investi 47e président des États-Unis. Et cela fait un mois pile que l'application CBP One a été désactivée par son administration. Cette plateforme des services migratoires américains délivrait des rendez-vous aux migrants, seul moyen légal d'entrer aux États-Unis. Alors depuis un mois, les migrants coincés au Mexique ont dû improviser après avoir vu les portes de leurs rêves américains se fermer. Le reportage de Lucie Achard.
Dans le nord de Mexico, des cabanes de bois s'alignent au bord d'un chemin de fer désaffecté. Leslie, une Vénézuélienne de 27 ans, espérait quitter définitivement le petit abri qu'elle partage avec 6 autres personnes.
Ça faisait si longtemps, quasiment 4 mois, que j'attendais de recevoir ce rendez-vous. Quand je l'ai enfin reçu, le 17 janvier, ce fut une joie immense. Mais elle n'a duré que 3 jours. On n'a même pas pu se faire rembourser les billets d'avion achetés pour aller à la frontière. On s'est retrouvés ruinés. Tout ce qu'on avait économisé, on l'a dépensé dans nos billets d'avion. On a perdu tout cet argent. Et maintenant, on n'a pas d'autre choix que de travailler.
Et recommence à économiser en espérant pouvoir bientôt entrer aux États-Unis. Parce que pour Leslie, comme pour sa voisine Candy, pas question de rester au Mexique ou pire, de rentrer au Venezuela.
Au Venezuela, c'est non. Ce serait retourner en arrière, échouer et se retrouver de nouveau dans ce trou où on était et dont il a été si difficile de sortir. Je ne veux pas non plus croire qu'on va rester au Mexique parce que j'espère qu'ils trouveront un nouveau moyen pour nous faire entrer légalement aux États-Unis. Il faut attendre encore un peu et voir ce qu'il se passe. En attendant, travailler et essayer de survivre parce que la vie est dure ici.
Mais attendre combien de temps? S'il le faut, encore une année, assure Candy, ou le temps qu'il faudra pour atteindre ce rêve qui nous a fait partir de chez nous. Lucie Achard à Mexico pour Radio Vatican.
À Washington, le commissaire européen au commerce à la sécurité économique conclut une visite de 2 jours pour apaiser les tensions commerciales naissantes avec l'administration Trump. Il a rappelé que les échanges commerciaux entre les deux rives de l'Atlantique représentaient plus de 30% du commerce mondial. Et puis, autre point de tension entre les 27 et Washington, la résolution du conflit en Ukraine. Les pays de l'UE sont mis à l'écart de négociations de paix tenues par seuls les États-Unis et la Russie. Des négociations qui se sont également et surtout aussi qui s'apprêteront à se dérouler, surtout en l'absence de Kiev. Le président Trump a même qualifié Volodymyr Zelensky de dictateur sans élection. Une réunion de travail avait toutefois lieu cet après-midi entre le président ukrainien et l'envoyé spécial des États-Unis à Kiev. Mais nouvelle illustration des tensions, Jean-Benoît Harel, il n'y a pas eu de déclaration après cette rencontre.
Oui Marie, la conférence de presse commune a été annulée à la demande des Américains selon la présidence ukrainienne. L'envoyé de Donald Trump, Keith Kellogg, arrivé en Ukraine hier matin, avait assuré comprendre le besoin de, je cite, « garantie de sécurité de l'Ukraine ». Une position beaucoup plus conciliante que celle du président américain, qui échange depuis mardi des attaques personnelles avec son homologue ukrainien, tandis que le Kremlin, lui, se réjouit de pouvoir reprendre le dialogue avec les États-Unis. De leur côté, les alliés européens, qui tentent d'exister dans le chemin vers la résolution du conflit, se sont insurgés de cette position américaine, faisant savoir par le porte-parole de la Commission européenne que l'Ukraine est une démocratie, contrairement à la Russie de Poutine. Alors, quelle est la véritable intention de Donald Trump? Nul ne peut le dire. On assure au sein de la présidence ukrainienne vouloir la paix, mais pas au prix de l'humiliation. Toujours est-il que Zelensky se retrouve ainsi assommé par son allié américain, alors que sur le terrain, les Ukrainiens continuent à subir les bombardements de l'aviation russe. Au moins 4 morts sont à déplorer ce jeudi dans la région orientale de Donetsk.
Merci Jean-Benoît Harel. Et puis la situation sécuritaire dans l'est de la RDC est toujours préoccupante. C'est le cas notamment dans la ville d'Ouvira, au sud de Kivu. La population vit dans la peur. Alors que le M23 serait arrivé à Sangay, à 35 km de la ville, à Ouvira, des affrontements ont lieu ces dernières heures entre des soldats de l'armée congolaise qui veulent fuir et les Wazalendo, des milices pro-gouvernementales qui veulent récupérer leurs armes avant de les laisser partir. Il y aurait des morts, des blessés. Des scènes de pillage aussi sont généralisées, même à l'évêché ce matin. 3 membres des AFRDC ont menacé l'évêque d'Ouvira pour voler les liquidités de son diocèse. Ce sera l'objet de notre dossier demain matin. Et puis enfin, la France en Côte d'Ivoire a rétrocédé au pays la grande base militaire qu'elle occupait depuis près de 50 ans près d'Abidjan à Port-Bouët. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. Une excellente soirée à vous tous.